Club des idées sur France Inter avec Alexis Brézé du Figaro, Laurent Geoffrin de Libération et Laurence Luret de ce même France Inter. Vous allez nous parler de La Nuit de Michael Fessel, c'est paru aux éditions Autrement. Et bonjour à tous les trois.
Bah oui, bonjour, bonjour, bonjour Patricia.
Bonjour.
Oui, on se disait, on se regardait.
J'avais oublié.
Alors oui, Patricia, en espérant que La Nuit dernière a porté conseil aux auditeurs et auditrices encore indécis pour aller voter aujourd'hui. Alors, jour de scrutin oblige, pas de thématique politique ce matin dans le Club des idées, mais une réflexion philosophique sur la nuit avec ce sous-titre « Vivre sans témoin » par le philosophe Michael Fessel, spécialiste de Kant. Il enseigne à l'École Polytechnique où il a d'ailleurs succédé à Alain Finkielkraut en 2013. Laurent Geoffrin de Libération, « La nuit ouvre un espace pour vivre sans témoin », écrit Michael Fessel. « Vivre sans témoin », ça vous a inspiré ?
Ben, je vais résumer, mais là, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, parce que c'est un jour de vote. Mais en gros, la nuit est de gauche et le jour est de droite. En gros, c'est ça.
L'ombre et la lumière, vieille histoire. Ça,
non, mais je
ça
tire ça du livre.
Des beaux résultats.
Alexis Brézé va nous dire.
Je tire ça du livre.
Pense.
Pourquoi ? Parce que, un, la nuit, les gens sont plus libres, ils sont sans témoins, donc les normes sociales s'appliquent moins. Et deuxièmement, alors ça c'est une citation du film de Jean Eustache, qui s'appelle « La maman et la putain », la nuit, je ne sais plus la fin, mais tous les gens sont beaux. Donc ils sont égaux. Et même les contrefaits, etc., ils sont tous, ils ont tous un visage plus avenant, plus agréable, etc. C'est la pénombre qui fait ça. Et donc les gens sont plus égaux, plus libres, plus égaux.
Donc le livre vous a parlé.
Donc la nuit est de gauche.
Alors, je voudrais juste, sans surtout entrer dans un débat électoral dans lequel nous ne devons pas entrer,
non.
Quand Jacques Lang salue le passage de l'ombre à la lumière, il salue le passage de la droite à la gauche. Donc l'ombre, donc la nuit, c'est de droite.
Mais enfin, il y a des nuances. Il y a des nuances. Je vais venir.
C'est un livre tout à fait intéressant. C'est un livre très brillant. C'est un livre de normalien, très érudit, très 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 intéressant. L'idée, c'est de donner un contenu philosophique au concept de nuit en s'appuyant sur plein de lectures, plein d'auteurs. Rétif de la Bretagne, Dostoïevski, Debord, Kant, Nietzsche, Foucault, il y a la Bible, les évangiles. Enfin, il appelle à une multitude de références à l'appui de sa thèse. C'est pas vraiment une thèse, c'est plus un prétexte à des digressions philosophiques tout à fait intéressantes. Donc, thèse qui est que la nuit, ça permet de vivre sans témoin et que si on veille, dit-il, c'est pour ne pas être surveillé. Pourquoi pas ? On peut aussi dire, et d'ailleurs, il le dit dans d'autres parties, que la nuit, on fait des tas de rencontres, précisément parce que les tabous tombent, qu'il n'y a plus les barrières du jour, et qu'au contraire, dans la nuit, on multiplie les relations. Donc, tout peut se dire. Il dit, la nuit, c'est démocratique. Et parce que la nuit, tous les chats sont gris, et donc les conditions sociales sont annulées. C'est vrai, on peut aussi dire que la nuit, c'est quelque chose d'absolument aristocratique, car vivre la nuit,
il donne des exemples de ça.
Et il le dit aussi. Donc il dit un peu tout.
Les muscadins qui vivent la nuit.
Parce que la nuit, c'est échapper aux contraintes des travaux et des jours. La nuit, c'est, pour vivre la nuit, il faut pas avoir trop de travail. Donc, il y a un côté aristocratique dans le fait de vivre la nuit. C'est tout à fait intéressant et c'est plein d'aperçus comme ça étonnants.
Il corrige aussi en disant que, la nuit, c'est le Moyen-Âge, par exemple. Pour beaucoup d'historiens, longtemps, on a dit le Moyen-Âge, c'est l'obscurantisme, c'est le... et puis ça aboutit à la Renaissance, puis aux Lumières, donc c'est le contraire. De la même manière, si on prend Mozart, la reine de la nuit, c'est la reine de l'irrationnel et des forces du mal. Et Sarastro, je crois que c'est Sarastro qui est qui est le dieu du soleil, enfin c'est un dieu solaire. Et donc voilà, on peut comment dire, nuancer beaucoup le propos. Mais je crois que c'est assez vrai quand on... Moi, je suis pas du tout noctambule, mais les rares fois où je sors la nuit...
Ah, les rares fois.
Je rencontre souvent Patricia Martin. Et à chaque fois que je sors, tac, je tombe.
Il parle aussi des insomniaques, d'ailleurs.
Alors, il raconte, c'est tout à fait intéressant, comment la nuit est grignotée par le jour dans la société moderne.
Oui, ça, c'est pas mal.
Ça, c'est pas mal du tout.
La lumière blanche.
D'abord, c'est
le capitalisme.
Dans un premier temps, concrètement, comment on s'éclaire beaucoup plus qu'autrefois de cette lumière blanche uniforme, alors qu'autrefois, même chez soi, quand on s'éclairait, il y avait des zones d'ombre. Aujourd'hui, on vit. Et puis, comment la nuit gagne, parce que le travail de nuit gagne, parce que les magasins sont ouverts la nuit, parce que la logique capitaliste, qui est la logique du travail, fait gagner le jour sur la nuit. Et donc, dit-il, c'est pas du tout un progrès, parce que c'est un espace de liberté qui...
Mais il y a deux chiffres qui m'ont frappé. C'est un, les Américains dorment beaucoup moins qu'avant. Ils dormaient 8 heures, ils dorment 6h30. C'est frappant, quand même. Et deuxièmement, 15% des gens qui travaillent la nuit. 15%, c'est beaucoup. Et donc, effectivement, du coup, la frontière entre les deux tend à s'effacer. C'est vrai que la société marchande, pour aller vite, tend à effacer la pause nocturne et à transformer la nuit en un jour plus oppressif et sans ombre, sans recoin où on peut se prendre une pause ou se dissimuler. Et donc, le capitalisme est très néfaste. Ça, on avait compris en général.
Mais cette invitation à lâcher prise par rapport à l'hyperconnectivité, par rapport à la société, à nos sociétés de contrôle, de surveillance, etc., ça vous a inspiré ou pas?
C'est intéressant. Moi, je trouve qu'il y a une très belle scène à la fin, quand il s'appuie sur la scène finale de la Dolce Vita de Fellini, où les fêtards, on fait la fête toute la nuit, ils arrivent avec leur maquillage qui coule sur la plage. Et c'est la dernière fois qu'il fait de la métaphysique. C'est pas un métaphysicien. C'est plutôt un philosophe du social et de la démocratie, des idées politiques.
Et du collectif.
Et du collectif. Et là, il dit, toute la nuit, ils ont cherché à échapper à la mort en étant réveillés. Et puis tout à coup, la mort les rattrape à travers ce poisson qui regarde Mastroianni. Ouais. Et là, je pense, alors moi, il le développe assez peu, mais moi, je pense qu'il y a une profonde vérité dans l'idée que d'être réveillé la nuit, c'est précisément échapper à la mort pour des raisons déjà arithmétiques. Le temps du sommeil, du temps perdu sur la vie. Déjà, vivre le jour pour vieillir, c'est pas agréable, mais dormir, c'est absurde. Donc c'est ça, la nuit, le fait d'être réveillé la nuit, c'est de gagner du temps sur la mort. Et je crois que c'est une autre chose, c'est que la nuit, et ça, à un moment, il l'évoque, on ne voit pas le temps passer. Le temps s'arrête la nuit. Le jour, le temps passe parce que le soleil décline. Ouais. Et donc, on voit le jour qui passe et on a ce sentiment de la fuite du temps jusqu'au soir où le soleil se couche. Où d'ailleurs, les enfants pleurent parce que c'est angoissant. La tombée du soir, c'est le moment où la fuite du temps atteint sa limite. La nuit, non. La nuit ne fait pas plus noir à 3h du matin qu'à minuit ou qu'à 4h30, 5h.
Mais il y a une illusion.
Il y a un phénomène d'arrêt du temps qui est une façon de lutter contre la mort.
Mais il le dit peu, je trouve, d'après lui, puisque le petit matin est toujours...
Décevant, la vie vient
triste, etc. Et on s'étourdit un peu. Quoi.
Il pose cette question vertigineuse. Est-ce que la nuit, c'est le commencement d'un jour ou c'est la fin d'un autre jour?
Ou c'est la fin, ouais. Et alors, le passage sur l'insomniaque, est-ce que je me suis demandé si vous étiez sensible à cette question, la nuit qui révèle la fragilité humaine avec l'insomniaque qui ressasse et justement pour qui la nuit n'arrive jamais.
Napoléon disait que le plus grand courage est celui de 4h du matin. C'est-à-dire un moment où on est pris au dépourvu, où il fait sombre, on ne voit rien, et on est soumis à des menaces indistinctes, et donc c'est là où le courage moral se révèle le plus. C'est là où il faut surmonter les craintes et les peurs, les angoisses, et pour réunir ses forces pour lutter contre l'adversité.
Il y a quelque chose de magique, de tellurique dans la nuit. À un moment, il dit un truc qui me paraît très juste, il dit « un ciel de nuit est sublime ». Alors qu'un ciel de jour peut être beau, mais il n'est pas sublime. Et je ne sais plus sur quel auteur il s'appuie pour dire ça. Et c'est intéressant parce
sur Kant, la nuit
c'est étoilée. C'est Kant et Diderot.
Heureusement qu'il y a Laurent Geoffrin. le côté magique qui a fait appel à des forces qui nous dépassent de la nuit est absolument palpable là.
Ils sont d'accord ou je rêve?
Ben, j'ai l'impression. Bon, c'est jour de scrutin, c'est pour ça.
Ben,
écoutez, moi, je dirais que c'est
plutôt du côté du jour et moins de la nuit.
Oui, voilà, c'est ça. Moi, je dirais que c'est une jolie réflexion à la fois philosophique et personnelle. Sans doute le livre le plus intime du philosophe Michael Fessel, spécialiste de Kant, qui nous a habitués, on l'a dit, à des sujets comme les passions démocratiques ou les deuils collectifs. Alors, voici donc la nuit, sujet a priori mystérieux, étrange, que l'on découvre au fil des pages sous ses multiples aspects philosophiques. La nuit propice à la réflexion, mais aussi point de butée, limite et parfois menace de la pensée. La nuit comme protection contre les lumières trop crues et l'idéologie contemporaine de la transparence, précise l'auteur, symbolisée selon lui par la lumière blanche, on l'a évoqué tout à l'heure, des néons, des salles d'attente, des aéroports, des stations-service qui vivent 24 heures sur 24. Dans ce petit livre dense, Michael Fessel déplie tout son savoir-faire pour nous faire partager l'expérience nocturne, tout en renouvelant l'image poussiéreuse du philosophe ne vivant que dans et pour ses livres. Le voici, philosophe noctambule, spécialiste de Kant, mais aussi des pistes de danse berlinoises, ici et ailleurs, toujours un peu en marge, insaisissable. Il faudrait nous résoudre à ne plus rien y voir pour accepter que la vérité ne rime pas forcément avec la lumière du jour, dit-il, pour s'apercevoir que la nuit préfigure déjà le le monde de demain. L'auteur nous invite d'ailleurs à nous abandonner à, je cite, ce défaut de visibilité qui fait que l'on ne perçoit pas par avance le terme du chemin. Une belle métaphore de l'instant démocratique que nous vivons aujourd'hui.
La nuit
de Michael Fessel, et c'est publié aux éditions Autrement.
Laurence Lurel, Laurent Geoffrin, Alexis Brézé, merci à tous les trois et à la semaine prochaine.
Bonne nuit.
À dimanche.